Bonjour, c'est Damien de Bourg-en-Bresse. Ben, c'était pour vous faire part de ma grande déception là. Donc puisque le 7-9 ce matin se déplaçait dans ma bonne ville de Bourg-en-Bresse, moi je me suis levé parce que étant le président du fan club de Jean-Marc Sylvestre, étant un adhérent vraiment important de ses idées et puis suivant chaque jour quotidiennement ses homélies libérales, donc j'ai mis mon petit réveil, espérant aller à sa rencontre, le voir en chair et en os. Lui, le guide spirituel de toute la France, de toute cette matinée d'informations chaque matin. Et puis, malheureusement, je vois Stéphane Paoli, je m'assieds, j'attends, l'heure avance, il est 7h, 7h05, 7h10, 7h15, j'attends le Messie, va peut-être arriver. Et malheureusement, non, finalement, il y a qu'un reportage sur les pauvres agriculteurs de ma région. Et sur la grippe aviaire et la peste aviaire, pardon, puisque j'ai bien écouté ce que disaient Monsieur Paoli et les experts, mais je n'ai pas pu voir Jean-Marc, donc Jean-Marc, je t'embrasse et sache qu'ici il y a des gens extrêmement déçus que tu ne sois pas venu et on pense fort à toi, on t'aime et vivement demain matin que je t'écoute en prenant mon petit déjeuner. Gros bisous Jean-Marc, on t'aime.
C'est toujours les étudiants de Nanterre. On a rejoint Sancier jusqu'à Saint-Denis, jusqu'à l'université, à la place du Châtelet. Et on dirige vers une destination junior toujours, parce qu'apparemment, on se méfie. Et on est toujours là, on est un peu environ, encore beaucoup plus nombreux qu'on était tout à l'heure. On est en pleine rue de Rivoli. Et voilà, ça chauffe.
Appel général à la grève public privé pour le 16 mars. Tous les secteurs sont concernés. Le mouvement étudiant lycéen précaire finit et demande pour le jeudi 16 mars 2006 un appel à la grève générale de la part de toutes les organisations syndicales, quelle que soit leur tendance. Nous sommes tous concernés, c'est pourquoi nous devons tous être mobilisés, main dans la main, afin de contrecarrer les plans de notre gouvernement qui agit actuellement dans le but d'accroître la précarité aussi bien sociale que culturelle des générations actuelles et à venir. Votre participation est nécessaire pour l'aboutissement de nos revendications, à savoir les réductions de postes au concours de l'éducation nationale qui ont été supprimées, la loi Fillon qui instaure un socle commun en collège à partir de la rentrée 2006, la loi sur l'égalité des chances qui comprend notamment le CPE, l'apprentissage à 14 ans et le travail de nuit à partir de 15 ans, et le CNE pour les 3 points, retrait sans condition. Nous n'insisterons jamais assez sur le fait que la mobilisation est indispensable à la réussite de notre mouvement. Nous avons besoin de vous dans la rue. Votre condition morale n'est pas suffisante. Voilà, c'est signé du mouvement étudiant lycéen précaire de Poitiers. C'est quoi le numéro du standard ?
0549.
Et on a un standard qui est joignable au 0549.
45 45 52.
Voilà. Au revoir.
Salut les amis, un petit coucou des étudiants de Montpellier là. Alors à Montpellier, brièvement, c'est 2 facs en grève. Et donc là, les étudiants se sont réunis autour du péage de Lunel pour faire une opération péage gratuit, péage prix libre. Donc ça se passe, pour l'instant, ça se passe bien, même si les gendarmes relèvent les numéros d'immatriculation et les identités. Donc voilà, c'était pour un petit peu témoigner de la situation. 38 facs en grève, c'est qu'un début. Ciao.
Voilà, donc nous appelons tous les étudiants, qu'ils soient de Nancy ou d'ailleurs, à rejoindre le mouvement. Depuis le début de la semaine, nous avons organisé 3 assemblées générales qui ont chacune accueilli entre 1500 et 2000 personnes à chaque fois. Différentes actions ont été menées, comme l'occupation des locaux, le blocage de la fac, le blocage des cours afin de permettre aux étudiants qui le souhaitent de participer au mouvement sans crainte de punition, enfin de sanctions administratives ou financières. Nous avons également, nous laissons entrer en cours par contre les étudiants qui souhaitent préparer des concours ou qui vont les passer. La bibliothèque universitaire reste ouverte également, ainsi qu'une salle informatique qui est mise à disposition des étudiants en fin de journée afin de faire leur inscription pour les demandes de bourses et toutes les demandes administratives. Alors le mouvement ici a pris beaucoup d'ampleur. Ça fait 2 mois qu'on a fait un travail de fond avec le collectif Stop CPE qui regroupait l'UNEF, la Ligue communiste révolutionnaire, l'Association pour la République sociale, Lutte ouvrière, également la CNT et d'autres associations de jeunesse comme Attaque Campus. Voilà, nous avons monté un comité de grève qui réunit tous les soirs entre 100 et 150 personnes qui décident des actions à mener. La grève a pour le moment été reconduite et les AG, le nombre des personnes présentes va grandissant.
Alors moi, je voulais dire que je commence à en avoir un peu assez de tous ces Français. Je suis française, hein, toute ce qu'il y a de plus française, qui sont toujours « Ah, tout va mal, il faut changer, il faut changer, il faut changer. » Mais dès qu'on touche la moindre chose, « Ah, mais comment on en a touché à ceci, on a touché à cela ?» Alors, je veux savoir s'ils veulent changer ou pas changer. Les CPE, je trouve que les jeunes ont beaucoup de chance. Ça leur donne la possibilité de montrer si ils sont capables et de rester là où ils sont. Parce que je sors encore d'une boutique où il y avait une jeune stagiaire. Moi, j'ai attendu presque 10 minutes dans la boutique. Et tout d'un coup, j'ai vu rentrer la patronne du mois sortir de son bureau pour aller dans la boutique. Et la stagiaire dit « Bon, alors je m'en vais, il est 4 heures. » J'ai dit « Mon Dieu, mais le parti tôt que ça, vos employés ?» Elle me dit « Non, madame, c'est une stagiaire, je l'ai depuis 10 jours, je deviens folle. Elles ne veulent rien faire. On ne sait pas pourquoi elles sont là. Les gens ne veulent pas travailler. Quand on leur dit qu'il faut travailler plus que 4 jours par semaine ou plus que 35 heures, ah, mais j'ai droit à une vie privée. D'accord, quand on veut faire quelque chose, on travaille un peu plus. Et quand on est patron, croyez-moi, c'est plus 35 heures par semaine, et c'est en plus tous les soucis de gestion et de se dire, est-ce qu'à la fin du mois, j'aurai de quoi payer tous mes employés ? Alors le CPE, je trouve ça très bien. Mais moi, je vois beaucoup de gens qui viennent simplement se faire engager pour 3 mois, pour 4 mois. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour se faire foutre à la porte et pour recommencer leur indemnité de chômage. Et ça, nous en avons par-dessus la tête. Et quand on cherche du personnel pour un restaurant ou pour un champigneur, il n'y a personne qui se présente, sauf des Noirs ou des Arabes. Ben, tant mieux pour eux, parce que finalement, il n'y a plus que ça nulle part, et tant pis pour les Français qui sont racistes. Voilà. Merci, j'en ai marre qu'on défende toujours ces soi-disant minorités qui ne font que tout ce qu'il faut pour ne rien faire, car les Français ne veulent rien faire. Au revoir.
Salut Daniel, c'est Gaëtan de Toulouse. J'ai pas pu résister à appeler, tellement la CPE et CNE m'en rendent furieux, dégoûté. Ça fait plus de 15 ans que je vis la précarité, l'intérim, les SES, les CDD. Pour revenir de l'intérim, ponctué de périodes de chômage. La précarité, les contrats pourris sans avenir, c'est ma spécialité. Et c'est pas un choix. En fait, j'appelle juste pour envoyer un message de soutien aux étudiants et lycéens, que surtout ils poursuivent et étendent leur mouvement, et qu'ils ne se fassent pas endormir par une soi-disant suspension du CPE. C'est la suppression qu'il faut. Et les députés qui ont laissé cette proposition me paraissent encore plus vicieux que le Premier ministre. La suspension, c'est foutre la mobilisation par terre, calmer la jeunesse, mettre en place le CPE tout doucement. C'est jouer sur les mots une fois de plus, pour arnaquer les jeunes. Suspension, suppression, ça sonne pareil. Alors que seul le retrait de la loi a une valeur. Ne lâchez pas le morceau. Salut, merci.
Salut, merci. Beaucoup de messages aujourd'hui parce que c'est vendredi, c'est le jour où il y a le plus de messages. Et on aura des réactions nombreuses sur l'émission d'hier avec Gilles Balbastre sur son film documentaire qu'on pourra voir prochainement sur la 5 sur la privatisation de l'EDF. On aura des réactions. On parlera d'un nouveau journal qui sort aujourd'hui même et qui s'appelle Le Plan B. On aura une lecture de ce journal. Vous allez pouvoir ne pas l'acheter mais l'entendre causer dans le poste, et puis beaucoup d'autres choses, beaucoup de messages dans tous les sens, évidemment beaucoup sur cette actualité concernant la lutte des étudiants, des lycéens, mais pas seulement. Et puis on parlera aussi de la série que nous commençons lundi. Nous partons vers l'Inde et vers le Bangladesh. La série s'appelle « Comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise ?» Ça dit assez bien. On est allé à vous le savez, à Langues, où l'endroit où on n'a pas vu le Clémenceau, mais on s'est rattrapé ensuite puisqu'on est allé au Bangladesh. On n'a pas vu le Clémenceau non plus au Bangladesh, mais on a vu des navires, des paquebots. Dans quelles conditions sont-ils démantelés, par qui, comment, et puis aussi. On aura des reportages sur la confection, d'où viennent ces vêtements que nous portons, par qui sont-ils faits et comment vivent ou meurent celles, le plus souvent, c'est des femmes qui font tout ça. Ça, ce sera à partir de lundi. Mais tout de suite, donc, cette heure de messages avec vous, les messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
On vous appelle parce que aujourd'hui, nous on habite en camping-car, enfin on n'habite pas, on cherche un appartement, en attendant on était en camping-car parce qu'on n'a pas trop le choix. Et puis aujourd'hui on a eu la visite de deux magnifiques gendarmes tout bleus qui nous ont annoncé que dans la Drôme, parce que là on est dans la Drôme, magnifique département, on n'avait pas le droit, il était interdit d'être SDF. Et nous ont aussi demandé pourquoi des gens comme nous n'arrêtaient pas de venir dans ce département. Donc nous, on appelle ça un peu du racisme. Et puis être interdit d'être SDF, ça nous semble être un peu un outrage.
Oui, bonjour à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. Pour la 47e année consécutive, le 10 mars sera commémoré le soulèvement du peuple tibétain contre l'occupation chinoise. Depuis bientôt 50 ans, les Tibétains sont opprimés et pour beaucoup d'entre eux contraints à l'exil. Je vous propose donc de prendre quelques minutes pour écouter l'hymne national du Tibet. À Paris, un rassemblement national aura lieu le dimanche 12 mars à 15h30 sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro.
Je suis au sein du lieu dit, donc je voulais informer les amis, nos amis auditeurs de là-bas si j'y suis, de la projection de documentaire Le silence des nanos de Julien Collin au lieu dit le dimanche 12 mars à 16h. À dimanche, merci, au revoir.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, dans la boîte vocale.
Flight number 2, arriving from...
J'ai demandé plus tard pendant l'enquête à un des dirigeants d'Enron, comment pouvez-vous faire cela à la Californie? Ne parlons pas du fait de savoir si vous avez ou pas violé la loi. Comment pouvez-vous faire cela? À des enseignants, aux hôpitaux, aux citoyens. Il a répondu, sénateur Dunn, vous devez comprendre quelque chose. La seule obligation légale que nous ayons envers qui que ce soit concerne nos actionnaires. Nous devons leur assurer le meilleur retour possible sur leurs investissements.
Pourtant, malgré le fiasco californien et la recrudescence des blackouts dans le monde, rien n'arrête la machine à libéraliser. Après sa désintégration, EDF se voit en partie privatisée depuis octobre 2005. Une loi concoctée par le gouvernement Raffarin et son ministre de l'économie Nicolas Sarkozy a en effet modifié le statut du service public pour livrer l'entreprise aux actionnaires.
Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Ce sont aujourd'hui deux champions nationaux. Ils doivent avoir les moyens juridiques et financiers de devenir deux champions européens, de se développer à l'extérieur de nos frontières et en France même, de faire face avec efficacité à la concurrence. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes pour qu'ils ne soient plus handicapés par le principe de spécialité ou entravés en Europe.
L'une des choses qui m'intéresse dans notre pays, et peut-être dans d'autres pays aussi, c'est de rétablir l'idée des services publics. C'est quelque chose qui n'allait pas de soi aux États-Unis. Nous l'avons obtenu après des siècles de lutte pour s'assurer le contrôle des chemins de fer, de l'industrie du téléphone, de l'industrie du gaz naturel, de l'électricité, de l'industrie des transports routiers. Et maintenant, nous abandonnons cette vision d'ensemble et ce contrôle, avec, dans de nombreux cas, des résultats épouvantables. Je pense qu'un pays comme la France est confronté au même problème et doit réfléchir sérieusement pour savoir si elle va suivre aveuglément une idéologie qui va l'entraîner sur une voie autodestructrice.
Rétablir les services publics obtenus de haute lutte, cette voix d'un chercheur américain, on l'entend dans, à la fin, à la conclusion du film de Gilles Balbastre sur l'EDF, sur la privatisation de l'EDF. Et ce film documentaire, on pourra le voir sur France 5 le 26 mars à 21h45. Ça c'est sur France TNT. Il y aura un film sur La Poste, un film sur les chemins de fer et ce troisième film donc sur l'EDF. C'est important parce que la question des services publics, la destruction des services publics, la déréglementation, on a entendu la voix de Nicolas Sarkozy, c'est quelque chose de très important, de très grave, qui nous est présenté comme quelque chose, on en a parlé longuement hier, d'inéluctable, de naturel, et allant de soi, sauf qu'aujourd'hui, on voit les résultats de tout cela. Dans le film de Gilles Balbastre, on voit les effets en Californie, le fameux blackout à travers la Californie, produit par les spéculations de l'entreprise Enron, entre autres entreprises. Donc on va mesurer là l'extrême fragilité de la privatisation dans des secteurs qui sont évidemment des secteurs extrêmement sensibles qu'on ne peut pas laisser évidemment à la seule tyrannie et domination des actionnaires. Les sons que vous entendez derrière moi, c'est à Dhaka, c'est au Bangladesh. Ces rythmes que vous entendez, ce sont des marteaux qui tapent sur des tôles de bateaux. Et là, c'est un port de Dhaka où l'on répare les bateaux, où l'on recycle les bateaux. L'Inde recycle, le Bangladesh recycle. Tout ce que nous jetons, tout ce dont nous ne voulons pas, on le verra à Delhi, dans la banlieue de Delhi. On ira voir des femmes qui sont pour 1-2 dollars par jour en train de récupérer les circuits imprimés de nos ordinateurs, de nos téléphones portables, de tous ces matériels qui nous enchantent et que nous jetons, que nous donnons comme ça, que nous échangeons une fois que nous en achetons un nouveau. Et tout ça, ça va, et ben, par exemple, là, à New Delhi, où ces femmes, à main nue, trempent ces circuits imprimés dans des bains d'acide et gratte pour récupérer un peu de cuivre et un peu de quelques poussières de métaux précieux. On verra ces chantiers à Chittagong, ici à Dhaka, et puis on ira voir ces femmes dans les ateliers de confection, où l'on s'imagine que lorsqu'on délocalise, on fait travailler des gens ailleurs, dans des pays pauvres, des pays en développement, comme on dit. Alors on se dit, c'est pas si mal, parce qu'après tout, bien sûr, c'est tout petit salaire, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un peu de développement. Eh bien non, parce que une fois qu'effectivement, il y a une amorce quelconque de développement, quelques semblants de droits qui commencent à être reconnus, eh bien, on délocalise à nouveau, et on le verra pour le Bangladesh concernant la confection, on verra dans quelles conditions travaillent ces femmes. Ce sera à partir de lundi, dans Là-bas si j'y suis. Pour l'instant, c'est les messages des répondeurs. Vous verrez qu'il y a un rapport entre tout ça, entre la Californie, Enron, et puis l'Inde, et puis ce qui se passe chez nous avec EDF.
चरण मारु चक डोल चाले चरण चरण मारु चक डोल चाले चाकर चीचू ची चाले आजे रोकड़ा ने उधार ताले चरण चरण मारु चक डोल चाले चरण चरण मारु चक डोल चाले चाकर चीचू ची चाले आजे रोकड़ा ने उधार काले हे सोमा है ना साणा हे करसन काका काला हे भूरी बंडी आला हे लाल बेटा वाला हे सोमा है ना साणा हे भूरी बंडी वाला हो करसन काका काला हे दोनी दंदी दाला जारू चक डोल चाले 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 आजे रोकड़ा ने उधार काले चरण चरण मारू चक डोल चाले चरण चरण मारू चक डोल चाले चाकर चीचू ची चाले आजे रोकड़ा ने उधार काले आजे रोकड़ा ने उधार काले आजे रोकड़ा ने उधार काले
Gilles Balbastre, dans toute cette histoire, on a parlé d'un basculement idéologique, c'est clair et net, et un basculement idéologique, ça s'accompagne ou ça se précède de ce qu'un critique américain appelait les pom-pom girls du capitalisme, c'est-à-dire les médias, c'est-à-dire les intellectuels. Il a fallu que tout ça, ce basculement, pour que ça se passe finalement si bien, soit accompagné. Or, c'est un sujet que traite un tout nouveau journal qui sort aujourd'hui même et qui s'appelle Le Plan B et qui consacre un article important à cette question, les vraies raisons d'une coupure EDF et avec un titre charmant, faut-il électrocuter les journalistes ?
Oui, alors ça c'est un point important aussi dans le film que j'ai pas pu traiter mais que je vais traiter certainement dans un autre film, c'est l'accompagnement médiatique et intellectuel de la libéralisation. Effectivement, faire un tel sujet, ça mériterait plus que 52 minutes. Alors c'est pour ça que moi j'ai plusieurs casquettes, je suis réalisateur de documentaires mais je fais partie aussi de l'équipe du Plan B qui est pour juste signaler la fusion d'un journal qui était connu qui s'appelait PLPL pour lire Palu qui était un journal du critique assez féroce des médias et d'un journal dont vous avez parlé aussi à cette antenne, Fakir, un journal satirique.
Pour aider les jeunes. Oui.
Damien et effectivement de la Somme. Donc cette fusion donne un journal qui permet aussi de traiter ce genre de questions. Et effectivement, dans le premier numéro qu'on trouve en kiosque et dans les marchands de journaux, on traite d'un des résultats de cette dérégulation. C'est une coupure d'électricité qu'il y a eu en Gironde le 25 décembre. Et les médias l'ont relaté comme une coupure qui avait un rapport avec le froid hein, et avec le retour des vacanciers pendant cette période des fêtes en Gironde. Alors ce qui est vachement rigolo, c'est que un des endroits où il y a coupé l'électricité, ce sont les banlieues ouvrières de Bordeaux. Alors, tout le monde sait qu'effectivement, il y a beaucoup de maisons, de résidences secondaires dans ces banlieues ouvrières de Lormont et Senon à Bordeaux. Non, en fait, c'est une vraie résultat de la dérégulation. Et encore une fois, les journalistes, pour des tas de raisons, passent à côté de la plaque et ne racontent pas la réalité. C'est même pas du militantisme. La réalité de cette coupure qui aurait pu être titrée « La dérégulation en marche, résultat du libéralisme ». Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir raconter ça. Dans mon film, j'ai pas eu le temps parce que 52 minutes, c'est un peu juste. Non pas par censure, mais par réalité. On fait un journal, Le Plan B, je vous incite à le lire, qui est pour le moment un bimestriel, hein, tous les deux mois, et qui va devenir un mensuel bientôt, en vente dans les kiosques, et chez les marchands de journaux, et qui s'appelle Le Plan B. Et je pense qui aborde au fond aussi cette réalité, ce lien qu'il y a entre le libéralisme, hein,
oui, on en parlera, on en
les
parlera
conséquences et les médias.
Oui, on en reparlera de ce journal, parce que moi j'ai un compte à régler avec ce journal. On m'a fait venir pour le lancement de ce journal, hein, on m'avait dit c'est un ménage, donc je suis venu animer, je savais même pas quel était le sujet, j'ai fait l'animation de présentation.
Et on vous a pas payé.
Et on m'a pas payé. Pour l'instant.
Pourtant, sur cette antenne, un certain nombre de journalistes...
Ah, non, tu le diras pas.
Play together, it's called Da.
Si on joue Da et Gay ensemble, ça fait Da.
Da. Gay, Da, Da. Gay, Da, Da. Ok. And Ta, Tin.
Ta, Tin.
Tin.
Din and ge. Din.
Din.
Din. Da din.
Da din.
Da din din da. Da din din da. Da tin tin ta ta din din da. This call is called trital. Trital. Da din din da. Da din din da. Da tin tin ta ta. Another one is dadra. Da din na da tin na. Da din na da tin na. Another one is basically used in our light music is kerwa.
Kerwa.
Kerwa. Da ge na tin na ka din na. Da ge na tin na ka din na. Da ge na tin na ka din. Da ge na.
Voilà, un cours de tabla, hein. C'est Guy Van Til qui prend un cours de tabla. On est à Ahmedabad dans le Gujarat. Et là, c'est une fanfare de mariage. Il y a beaucoup de mariages en ce moment dans le Gujarat. Et alors, pour le mariage, bah, vous faites accompagner par une de ces fanfares. Très jolie fanfare, ça va être très beau, tiens, pour le lancement du journal Le Plan B. On va en parler, mais aujourd'hui, c'est d'abord vos messages, les messages que vous avez laissés sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, et notamment suite à l'émission d'hier, dont vous venez d'avoir un bref résumé. Message.
Oui, je viens d'écouter votre émission qui était très intéressante. Et moi, pendant cette émission, j'ai beaucoup pensé à la tempête de 99. Où il y a eu des milliers de kilomètres de fil, des pylônes qui sont tombés de partout. Et EDF a mis, en fait, il faut très peu de temps pour réparer tout ça. Et si ça avait été privatisé, je me suis demandé vraiment comment ça serait passé. Surtout dans les campagnes isolées. Est-ce que ces compagnies n'auraient pas eu plutôt intérêt à dire à ces gens-là qui habitaient à la campagne, qui n'avaient plus de courant, bah écoutez, si vous n'êtes pas content, bah vous allez vous installer en ville. Et rien n'aurait été réparé. J'aimerais bien savoir si j'exagère ou pas, quoi.
Au niveau des banques, hein, quand ils proposent des actions, et ben les gens sont tellement cupides qu'ils les acceptent parce qu'ils voient leur propre intérêt. Et bien s'ils avaient, disons, un petit peu de bon sens, et bien ils répondraient une action achetée, un emploi supprimé, voilà.
Donc aujourd'hui, si on veut s'opposer à cette politique de destruction de tous les services publics, n'est-il pas temps de mettre en avant le mot d'ordre renationalisation de tous les services publics, sans indemnité ni rachat? Et comment expliquez-vous que ni le PS, ni le PC, ni ATTAC ne posent ces problèmes en ces termes-là? Et surtout pas en termes de rupture avec l'Union européenne qui, justement, incarne cette politique-là. Cette politique de destruction de tous les acquis sociaux et de destruction de la classe ouvrière, parce que les acquis sociaux, c'est ce qui constitue la classe ouvrière, ce qui lui permet de conserver sa force et de destruction des syndicats comme syndicats indépendants, car aujourd'hui, on voit le cours pris par exemple par la CGT, dans laquelle je suis militante, où la direction nous parle de sécurité sociale professionnelle et de statut du salarié, c'est-à-dire d'individualisation des garanties, au lieu de se battre pour restaurer les garanties collectives qui ont été détruites petit à petit depuis 15-20 ans, grâce à nos chers gouvernants de gauche.
Ouf! Eh ben, il est 18h et quelques, et ben, j'ai bien cru que pendant l'heure de ton émission, Daniel, France Inter continuait encore de nous jouer les déclinologues, hein, en avertissant à juste titre ses fidèles auditeurs du triste sort qui les attend, en sapant leur morale vu l'avenir ultra-capitaliste qui s'annonce, hein, plus de services gratuits, etc. Mais, il a fallu attendre 17h59 pour que la pub vienne enfin nous sauver. Ah, la pub et ses ravages, toujours la pub. Et une pub sur EDF en plus. Ultra formaté qui nous annonce encore les mérites de ces services gratuits, mon cul. À croire qu'ils étaient bien renseignés de l'émission qui passerait et de ses conséquences. Hein.
Dans l'émission de Daniel Mermet, Gilles Balbastre a parlé de son documentaire sur la privatisation d'EDF, EDF, les apprentis sorciers. Je voudrais indiquer que ce documentaire passe en avant-première à Lille, salle Amacola, le mercredi 22 mars, dans le cadre du Festival de la critique sociale du capitalisme. Sa projection sera suivie d'un débat avec l'économiste Jean Gadret et le député européen Francis Wurtz. Dans ce festival qui durera tout au long du mois de mars, il y aura du reste beaucoup d'autres projections de documentaires et beaucoup d'autres débats critiques sur les questions économiques et sociales. Le programme de ce festival se trouve en page région dans la Voix du Nord de ce vendredi 10 mars. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 06 60 04 47 36. Je répète, 06 60 04 47 36. Venez nombreux. Merci.
La más opina y examina hasta nuestra orina, ninguno se encamina, pero igual tocan bocina cuando escuchan una obra tan fina y tan genuina. En posición supina se me posa tu retina, gastando energía como una pila alcalina. Presumo que mi fonética te calcina y el humo que te sale te sirve de cortina. Micrófono en mano, frío como un témpano, congela tu tímpano y te pone la piel de gallina. Silencio, el ruido contamina y un rumor se distorsiona en cada esquina, como un horario de oficina se te hizo rutina, que la tenga clara y cristalina. La balanza se inclina, el cosmos pesa y todos pierden la cabeza, como en la guillotina. Tu pelo con gomina se ondula y tu glándula segrega adrenalina. Mi flow coordina, silencio en la sala. El tigre enciende la bengala y Chili Parker la turbina. A todo pulmón como la nicotina. Rap con capacidad como una limusina. Apolo Novax se me denomina. Basero de volumen cero en América Latina. ¿De qué me hablas? Volumen cero. ¿Qué me decís? Volumen cero. No me conoces así que... Me llamo Apolo Novak. Volumen cero. ¿De qué me hablas? Volumen cero. ¿Qué me decís? Volumen cero. No me conoces así que... Me llamo Apolo Novak. Volumen cero.
Silencio.
Alors voilà une petite action qui peut rapporter gros. Et vive le CPE. Alors CPE, là, on va le mettre au féminin, ça va être la connerie préélectorale. Je m'explique. Vous allez sur Internet, ceux qui ont Internet, hein, et puis ceux qui n'ont pas avant chez les copains, on tape CPE sur Google, et à droite, sur Google, il y a un lien ump.org sur lequel il faut aller pour signer la pétition citoyenne en faveur du CPE. Et on va signer. Parce que, bien sûr, le gouvernement espère que tous les UMP vont venir cliquer et ensuite se targuer d'avoir énormément de signatures. Seulement, il y a une faille dans leur système, c'est qu'à chaque fois qu'on clique, il en coûte 25 centimes d'euros à l'UMP. Eh bien oui, le lien est payant. Pour s'acheter un lien sur Google, ça coûte 25 centimes d'euros le clic. Alors allez-y, cliquez des dizaines et des dizaines de fois pour vider les caisses de l'UMP. C'est pas difficile. Il suffit de trouver des noms, des adresses, genre sarco.tetedecon@yahoo.fr. Enfin voilà, alors faites preuve d'imagination, faites preuve d'humour, allez-y, faites-vous plaisir et vive la démagogie. Au revoir.
Ne faites surtout pas ce que vous conseille cette auditrice, c'est très 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 mal, c'est du détournement et nous c'est pas du tout des choses qu'on encourage dans la base. J'y suis bien évidemment. On n'est pas très sûr là, je regarde là, Antoine Chao, il pense pas que ça marche cette histoire. Enfin, essayez. En tout cas, ce que vous pouvez essayer et qui est très beau, c'est sur le site labas.org. Un diaporama qu'on a fait avec un auditeur qui est un ami fidèle de la base, si j'y suis. Un diaporama avec les photos du reportage qui commence lundi. Comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise qui commence lundi. Et bien vous pouvez voir toute une série de photos faites en Inde et au Bangladesh. Labas.org. Labas.org. Voilà. On continue avec les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis ces jours derniers et ces messages-là, je crois, ce matin ou hier soir.
Bonjour Daniel, je suis Claudine de Courbevoie et je suis le porte-parole d'une partie du personnel d'éducation du collège Jean Massé de Clichy-la-Garenne qui s'oppose à la mise en place du protocole instaurant l'installation d'un policier dans le collège. Cette mesure n'est pas justifiée parce que, d'abord, le partenariat existe déjà avec le commissariat et en particulier avec un officier de prévention et ce dispositif fonctionne très bien. Deuxièmement, nous faisons déjà appel à la brigade des mineurs en cas d'incidents graves qui sont très rares dans notre établissement. Troisièmement, le règlement des autres incidents se fait par le travail d'éducation des médiateurs, des surveillants, des conseillers principaux d'éducation, des enseignants et du personnel de direction. L'équipe éducative voit dans ce protocole la négation de leur travail et de leur mission. Nous n'avons rien contre la police, mais ces interventions répressives doivent rester extraordinaires pour demeurer efficaces et ne pas être banalisées, ni saper notre propre autorité. Laissons chaque instance à sa place.
Voilà, salut Daniel, je t'appelle parce que je suis contractuel de l'éduc nationale et que c'est pas une chouette journée quoi. Mais peut-être un petit peu expliquer ce que c'est qu'un contractuel ou un vacataire de l'éduc nationale. C'est 17, 18, 20 contrats en 3-4 ans, des retards de salaire réguliers de 2-3 mois. Aucune augmentation de salaire, bien sûr. Des congés annuels où tu perds 30-40% de ton salaire, ça dépend de l'humeur. Pas de congés formation pour les reconversions. Puis le jour de la rentrée, t'attends qu'on t'appelle, quoi. Tu restes chez toi et puis on te téléphone et on te dit où tu dois partir. Tu pars pour un mois, deux mois, un an, à 100 bornes, 200 bornes de chez toi, sans frais de déplacement payés, sans rien. Les places au concours, il y en a au concours interne dans ma matière, lettres histoire, il y en a 25 par an. On est 1000 à se présenter. On a bien entendu le niveau requis au niveau des diplômes, je veux dire, c'est pas un souci, mais c'est pas reconnu. On est inspecté comme tout le monde, reconnu, on bosse plusieurs années, bien évidemment dans des classes difficiles. Voilà. Ça, c'est encore dans le meilleur des cas, parce que tu peux être vacataire aussi. Vacataire, c'est 200 heures par an. Puis quand on a fini les 200 heures, on te dégage et on en prend un autre. Voilà. Donc je pense à ce type-là, là aujourd'hui, là qu'on a qualifié de détraqué, tenant des propos décousus et paranoïaques. Je pense qu'il a dû morfler comme les 10 000 enseignants virés ces deux dernières années par cette magnifique entreprise qui est l'Éduc nationale, quoi. Voilà. Pour te signaler aussi que depuis plusieurs mois, là, des contractuels et des vacataires campent devant plusieurs académies en France. On demande à être reçus par notre cher ministre, à qui on a d'ailleurs posé la question de ce soir, savoir si c'était pas une histoire de précarité quand même, cette prise d'otage. Il a répondu que, bien entendu, ce n'était pas le cas. Donc on essaye de se battre à l'heure actuelle et ce serait peut-être sympa que tu jettes un petit coup d'œil là-dedans, quoi. Voilà, je suis un peu fatigué ce soir, hein, après cette dure journée, problème avec des élèves, et puis essayer de se faire entendre auprès de nos collègues titulaires, qui pour beaucoup, nous suivent pas trop, quoi. Donc on se sent un peu seul, tu sais, cet isolement dans l'entreprise, là. Voilà, un peu dur. Merci Daniel, et puis peut-être à bientôt. Ciao.
Devorani toli marine darulani ramatakari darulo do tai go harine jai paryo jal jamunani દડો લેવાને હરી જળમાં પડ્યાને કાંઠે ગોવાળિયા ઉભા રહ્યા એક ગોવાળીએ જઈ વાત જ કરીને માતાની શુદ્ધ ઉડી ગઈ આગળ માત ને પાછળ તાત સૌ સગળો ગોકુળનો
Parce qu'on parle de la mère qui s'inquiète. Krishna, il s'est jeté dans le lac et maintenant, un de ses amis est allé raconter à sa mère que Krishna s'est jeté dans le lac et maintenant c'est la mère qui s'inquiète. Et donc c'est très émouvant pour elle.
Donc la grand-mère pleure en chantant la chanson de Krishna.
Tu expliques pas pourquoi elle pleure, pourquoi tant d'émotions?
Non, c'est parce que il y a un mois et demi, ma tante est décédée.
Voilà. Parce qu'il y a une allusion à une histoire de famille, c'est ça. Donc c'est sur l'inquiétude des mamans. Cette chanson, c'est sur l'inquiétude des mères. Parce qu'ici, on parle par divinité, mais c'est des truchements. Et ça permet de manifester des sentiments ou des idées ou des émotions, mais par le truchement des divinités. Et là, on vient vraiment d'avoir un cas où on parle de Krishna, mais c'est une espèce de courtoisie pour pas parler de soi-même directement, mais là, l'émotion était plus forte.
Voilà, ben, je m'appelle Anne, je vis dans le Val d'Oise. Je vous appelle parce que ben, je suis quand même très troublée par l'histoire de ce professeur contractuel qui a pris des ex-élèves en otage, ainsi que quelques adultes de son ancien établissement. Ce qui m'ennuie, c'est que bah, j'entends, par exemple, sur France Inter, qu'il est alcoolique, dépressif. Alors, je suis absolument d'accord pour rejeter son geste, hein, pour, bien entendu, comprendre la peur des élèves, la peur de leurs parents. Mais je pense aussi que bien peu de Français connaissent le système de fonctionnement de l'éducation nationale et que moi j'aimerais bien qu'on comprenne son geste, son désespoir, sa douleur. Moi je vis la même depuis 18 mois. J'étais professeure contractuelle. J'étais très certainement une très bonne professeure contractuelle puisque j'ai même été professeure principale de 6e, professeure principale de 3e. Et puis un beau jour, eh ben, on a visiblement plus besoin de nous et je suis au chômage, je ne trouve pas d'emploi. Et je comprends le geste de cet homme. Je n'avais qu'une peur, c'est qu'il retourne l'arme contre lui. Visiblement, il n'en a pas eu la possibilité. Et je suis bien contente qu'il ne l'ait pas faite. Moi, j'ai très souvent pensé au suicide. Heureusement que la présence de ma fille m'en a empêchée. C'est une véritable douleur de vivre comme moi, malheureusement, près d'une école et d'entendre la rentrée, d'entendre les récréations, d'entendre ces enfants à qui on ne parlera plus et que l'on ne verra plus.
Voilà, super message. Merci à cette auditrice. Alors, on a parlé du plan B, le plan B, ce journal qui sort aujourd'hui même. Et on va, pour que vous ayez une idée quand même de ce qu'il y a dans ce journal, eh bien, on a demandé à un comédien qui s'appelle Nicolas Lambert. Vous vous souvenez, Nicolas Lambert, il est l'auteur et l'acteur d'un spectacle qui s'appelle Elf ou la pompe afrique. D'ailleurs, ce soir, il le joue au Théâtre de l'Unité, à Audin, demain, au Théâtre de l'Unité, à Audincourt, quelque part dans le Doubs. Et alors, Antoine Chao lui a demandé de lire une page, la dernière page, de ce journal, Le Plan B. Alors, vous avez, c'est une lecture un peu particulière parce que c'est une lecture avec des comédiens, enfin plusieurs personnages. C'est Nicolas Lambert qui fait tous les personnages et tout ça, on n'a pas de gros moyens. Et c'est un procès. C'est le procès d'un personnage bronzé.
Bien, garde, faites entrer l'accusé.
Une odeur de crème solaire pénètre le tribunal. Le sourire de Jacques Séguéla est à ce point figé qu'on le croit peint sur sa polyveté. Le juge d'instruction lit l'acte d'accusation.
Patron, plagiaire, publicitaire, vous êtes accusé d'avoir pollué nos existences par le biais des marques, dégradé la politique avec les communicants et œuvré au virage capitaliste de la gauche. Vous ambitionnez à présent de confier aux annonceurs le contenu des programmes de télévision. Vous avez déclaré dans le Nouvel Économiste du 26 janvier 2006 « C'est la publicité qui paie le spectacle de nos télévisions, pourquoi n'en serait-elle pas la coproductrice ?» Une telle menace pour l'humanité a motivé votre inculpation.
Monsieur le Président, votre cour sombre dans le racisme anti-marque. Or, j'ai expliqué dès 1999 que la publicité est le sponsor de la démocratie. Quand dans un pays, il y a consommation, envie de travailler et de réussir, la démocratie marque des points, nous donnant des leçons d'antiracisme au monde et nous pratiquons l'apartheid publicitaire. Dans l'entretien avec le nouvel économiste auquel vous faites référence, j'ai simplement rappelé que les grandes valeurs de l'Amérique ont été portées par les discours de leurs grandes marques. Coca-Cola, la jeunesse, Marlboro, la sérénité, Levi's, la liberté, McDo, la famille, Nick, l'engagement personnel. Oui, monsieur le procureur.
Oui, assez. En 1980, avant que la philosophie de l'accusé ne contamine la gauche française, le projet socialiste estimait, page 292, « La publicité, toujours plus envahissante, n'exerce pas seulement son influence indirecte sur le contenu rédactionnel des journaux qu'elle finance, encourageant ainsi le conformisme, son contenu constitue une propagande permanente pour le modèle culturel dominant. Désormais, vous siégez au conseil d'administration de Havas, monsieur, en compagnie de Pierre Lescure, Vincent Bolloré, Laurence Parisot. »
Je n'ai pas la nostalgie des breloques archaïques. Je me suis réjoui que le PS, un parti de vieille croûte, soit enfin conquis par la modernité publicitaire. Dans mon livre « Le vertige des urnes », j'ai expliqué à mes amis DSK Delanoë et Jack Lang que le vote était un acte de consommation comme un autre, à la différence de taille que le produit est un homme. Pour moi, l'élection du futur sera celle du nomadisme intellectuel, du métissage et de la multiculturalité. Et la société de demain sera en réseau. Le cyber, c'est une éjaculation précoce d'idéogrammes, un escafé télégraphique de mots. Certains grands intellectuels ont comparé mes théories aux fulgurances de Bonaparte. Hein.
La défense appelle à la barre monsieur Laurent Geoffrin.
Dans un article du Nouvel Obs, hein, j'ai bien comparé Bonaparte à Séguéla de lui-même. Bon, j'admire hein, ce camarade socialiste qui a réconcilié la gauche et les euros. D'ailleurs, sans la pub de Jacques, un hebdo citoyen comme le nôtre disparaîtrait. Car enfin, ce sont ni les éditos assommants de Jean Daniel, hein, écrits depuis un palais de Marrakech, et les déclarations d'amour de Jacques Julliard à Thierry Breton, ben, qui nous font vivre, hein, et bien vivre. Hein.
Bon, garde, faites évacuer ce pitre. L'accusé ne répugne pas à faire usage de la censure. En 2002, monsieur Karl Zéro interdit la diffusion d'un reportage mettant en cause monsieur Séguéla, son partenaire en affaires. Il s'en est expliqué en ces termes. À l'époque, j'étais en train de lancer le vrai papier journal et Séguéla y mettait de l'argent. Les journalistes du vrai journal le savaient et, pour m'emmerder, ils ont parlé de Séguéla. Je trouvais ça illégitime, je l'ai dit et je l'ai coupé à l'image.
Oui, la défense ?
Oui, monsieur. Mais quel publicitaire n'utilise pas son influence pour défendre les valeurs de la démocratie ? Et quant à Karl Zéro, pas besoin de faire très longtemps pression sur lui, hein ?
Oui, monsieur Séguéla.
Mais on m'accuse d'égoïsme, mais ça tient pas debout. Le 18 novembre 1999, au lendemain d'attentats islamistes en Égypte, l'hebdomadaire de Laurent Geoffrin m'interroge sur mes projets de réveillon. Ma réponse, j'ai affecté Princesse Eugénie, un petit bateau de bois d'une cinquantaine de cabines. On va remonter le Nil et le lac Nasser pour réveillonner à Assouan. Avec des copains, on sera une cinquantaine avec enfants. Ça va de Guillaume Durand à Philippe Labro, Olivier Duhamel, Marie-France Pizier. Je milite pour que les gens n'aient plus peur d'aller en Égypte. La citoyenneté, c'est ça.
Mais le slogan « La force tranquille » que M. Séguéla a vendu très cher à M. Mitterrand en 1981, il l'a plagié sur Léon Blum, qui employa cette formule dès 1936.
Bah, vous voyez.
Oui, maître, monsieur le conseil de monsieur Séguéla.
Vous voyez, Séguéla n'a rien inventé. Et en plus, il est inoffensif. Il conseille la campagne d'Abdou Diouf, alors président du Sénégal depuis 19 ans. Il lui suggère un slogan « Ensemble, changeons le Sénégal ». Ben, Diouf perd, naturellement. Mon client est engagé en 2000 par Luc Guyot et la FNSEA pour faire oublier José Bové et la Confédération Paysanne. Ben, nouveau slogan ridicule, l'agriculture se conjugue au futur pour une campagne d'un million et demi de francs. Ben, résultat, on n'a jamais entendu autant José Bové. À croire que c'est le moustachu qui a été coaché par un publicitaire. Mon client devient actionnaire du journal de Karl Zéro. Ben, la publication coule après quelques numéros. Il s'associe à Christine Ockrent pour lancer un site de finances personnelles. BFM Biz faillite une fois de plus. Ah, Havas, Séguéla s'oppose à la prise de contrôle de Vincent Bolloré. Bolloré l'emporte. Avec Séguéla, la société ne court en cas danger. Pensez plutôt à ce qu'il adviendrait de sa peau bronzée à l'ombre d'une cellule.
Mais irresponsabilité et incompétence. Le système de défense est habile, mais c'est oublié que M. Séguéla a assuré en 1997 la campagne présidentielle victorieuse de deux dictateurs africains. Eyadema au Togo et Omar Bongo au Gabon. L'année suivante, Niasimbe Eyadema était tout de même accusé d'exactions assimilables à des crimes contre l'humanité par Amnesty International.
Monsieur le procureur, l'élection d'Eyadema a été truquée. Mon client ne pouvait donc pas la perdre. Récemment, il a conseillé la campagne du candidat pro-russe Viktor Yanukovych en Ukraine. Là encore, il ne l'a remporté que grâce à des fraudes massives et l'élection a été annulée. Quand la consultation est régulière, en revanche, mon client a fait ses preuves. Si l'on peut dire, il est parvenu quand même à faire battre Lionel Jospin par M. Le Pen dès le premier tour de l'élection présidentielle de 2002.
Bon, votre client est peut-être incompétent, mais il nous coûte cher. Dans les comptes de campagne de Jospin, le prix des conseils en communication fournis par l'équipe Séguéla Fuchs figurait pour 484 480 euros. Or, l'essentiel de cette somme a été payé par le contribuable sous forme de dotation publique au parti. L'accusé dit adorer le marché, mais il préfère faire joujou avec l'argent de l'État.
Assez, oh, mon client, en qui l'accusation voit un chacal redoutable, n'est qu'un caméléon inoffensif. Un Plenel sans moustache, un Geoffrin sans barbiche, un Colombani sans l'embonpoint. Libérez-le.
Bien, maître, cessez, voulez-vous bien de défendre l'accusé en invoquant les turpitudes d'autres justiciables qui n'ont pas encore été déférés devant notre cour. Le verdict est celui-ci. Monsieur Jacques Séguéla est condamné à rissoler dans l'huile de bronzage. L'audience est levée.
Я Фантомас, господа.
Здравствуй, Фантомас.
Voilà, merci à tous. Vous pourrez lire cette page dans Plan B, le Plan B qui sort aujourd'hui même partout en France. Comment meurent les bateaux et qui coupent ma chemise, c'est à partir de lundi dans la base, j'y suis à 17h. Merci à tous, on parlera bientôt bien sûr du bouquin de François Ruffin qui sort aussi ces jours-ci aux éditions Fayard, Quartier Nord, et qui est évidemment excellent. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission La Basse, j'y suis. Technique aujourd'hui Sandrine Laurent et Philippe Duclos. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale avec Guy Vanctil et Koyen Guyenne au montage, assisté de Pascal Heu, Pascal Yellow et Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est 01 56 40 37 37, vous les attendiez, les voilà.